Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h33, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. Fred Hermel nous rejoint. Fredo, bonsoir.
Hola chicos.
Bah, t'as failli refaire une remontada, mon vieux, là.
Eh ben dis donc, hein, je vois le titre de mes copains de AS. Villarreal frôle une remontada historique. Une remontada historique.
Bon.
C'est vrai que, ils ont senti la peur des Marseillais et, bah voilà, ils ont. Mais bon, ça passe pour Marseille, mais franchement, en plus, il n'y avait pas grand monde dans le stade. Il n'y avait que 15 000 personnes, hein, sur un stade de 25 000, il n'y avait que 15 000 personnes. Donc, c'est-à-dire que les gens n'y croyaient pas vraiment. Voilà, n'y croyaient pas vraiment à cette remontada. Mais
pourtant, ils avaient fermé les écoles.
Oui, parce qu'ils avaient peur des ultras de Marseille. Voilà. Mmh. Tout s'est bien passé, grâce à Dieu et grâce à la police espagnole. Mais c'est vrai qu'il y avait, il y a le sentiment en Espagne que finalement, l'aventure de Villarreal, qui se termine quand même très tôt, hein, dans cette compétition, finalement,
ils avaient matière à faire beaucoup mieux. S'ils se sont déchirés sur le match aller, prendre une tôle comme ça, mais l'écart entre les deux équipes n'est pas aussi grand. Non, ça pouvait donner deux matchs beaucoup plus serrés, en vrai.
Mais complètement. Et en fait, ils s'étaient un peu fait refait la cerise le week-end dernier en gagnant au Betis, ce qui n'est quand même pas rien, à Séville, après avoir été mené. Et il y avait le sentiment que la claque reçue à Marseille n'allait pas pourrir la fin de saison. Parce que parfois, tu prends un 4-0 et après, les types sont au fond du trou. Bon, quand même, Marcelino, il a réussi à les requinquer le week-end dernier. Cette victoire à Séville a quand même été très importante. Et ce soir, sincèrement, je pense que le message, en tout cas, c'est ce qu'on dit en Espagne, le message envoyé par Marseille était pas un message d'une équipe qui allait gagner 4-0 à l'aller. Mmh. Et voilà, il y a eu un petit peu de sang et ils ont senti l'odeur du sang et ça a failli passer, quoi.
Tiens, on a Pierre avec nous, supporter marseillais, pour conclure sur ce match. Salut Pierre.
Bonsoir l'équipe, salut, bonsoir l'after.
Bon. Salut Pierre.
Voilà, moi j'ai 94 minutes en apnée quand même, hein,
et
la 95e ça a été la respiration. Mais moi j'aimerais revenir, comme il a dit Daniel ce soir, sur le cas Unai.
Voilà, vous acharnez pas sur Unai, les gars.
Unai, ça rime avec escroquerie, il faut dire la vérité. Le mec, il court dans le vide, il va pas au contact. Quand il est contact, il... Nous, au Stade Vélodrome, au Virage Nord, on l'appelle le basic fit. Il va tomber, il va se faire mal, il va se casser un os. Il est très léger, il est plus dans... Je ne sais pas comment il est encore titulaire. Je ne sais pas comment ce joueur...
Non, mais tu sais, cette histoire de son allure et tout, il faut arrêter avec ça, parce qu'il a fait une bonne Coupe du Monde en ayant la même musculature et la même allure.
Deux matchs.
Ouais, non, mais ce que je vais te dire, ça ne devient pas un mauvais joueur complètement. Je pense qu'après, il y a autre chose. Comme on l'a dit tout à l'heure, t'as un ensemble de trucs sur comment il se projette, comment il se voit, est-ce qu'il travaille, est-ce que c'est sérieux, tu vois, est-ce qu'il a du niveau.
Il travaille pas assez, mentalement il est pas assez fort, sur le terrain il y a pas un rendu suffisant, loin de là, il y a même un rendu qui est extrêmement médiocre. T'es à l'OM, boss, mets-toi au niveau, là t'as pas le niveau de l'OM, là t'as le niveau d'une deuxième partie de Ligue 1, en te bougeant le cul. Parce qu'en jouant comme tu joues là, même deuxième partie de Ligue 1, tu vas te faire rentrer dedans, tu vas te faire péter en deux. C'est pas possible de jouer à ce niveau. Non, mais en fait, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il donne l'impression de se planquer. Donc, il y avait son équipe qui était en train, contre toute attente, de se faire, se faire plier avec la panique à bord de tout le monde, de peut-être devenir absolument ridicule en subissant une remontée. Et le mec, il est là, t'as l'impression qu'il gambade, il se balade. Tu sais, parce qu'en plus, il a cette espèce d'allure qui, malheureusement, quand il est bon, ça joue pour lui, mais quand il est pas bon, ça joue contre lui, parce que t'as vraiment l'impression que c'est un touriste. Franchement, pour un supporter, c'est exaspérant.
Ah là, c'est exaspérant. On a l'impression qu'à chaque contact, il va exploser.
Mmh. Bon, il n'y en a pas un autre parce que là, Unai, le pauvre... On
parle plus de Mumbanya, là, le numéro 2 de Aubameyang.
Il n'a pas joué. Vous êtes en boucle, les gars.
Il n'a pas joué.
Je t'écoute tous les soirs, pratiquement. Il ne faut pas se prendre la tête avec Mumbanya.
Mais non, mais je me prends pas la tête. Ça me fait marrer, en fait. Ça me fait rire parce que c'est juste que ça me fait marrer.
Il y a un autre joueur dont tu voulais parler, je parle bien peut-être.
En bien, j'aimerais revenir sur Paul Lopez. Paul Lopez, quand même.
Oh bah, ce soir, tu m'étonnes, il a fait les arrêts.
Ah bah attends.
Il sauve deux occasions, il reste 10 minutes. Là, on ne fait pas le mal, hein, le supporter marseillais. J'étais devant mon écran, je me suis dit, là, ça tourne.
J'ai envie de te dire que ça va faire du bien à tout le monde, là, enfin, à Paul Lopez et aux supporters. Parce que la relation Paul Lopez-supporter de l'OM, elle est.
En dents de scie.
Donc, je dirais que pour lui, comme mentalement, c'est voilà, quelqu'un.
Ce soir, je pense que vous pouvez lui dire merci.
Ouais, là il va reprendre un peu de crédit quand même. Et Mbemba aussi, toujours. Moi, je trouve, même si ça n'a pas été simple pour la défense. Et là, pour le coup, quand on parle de Taulier, le mec qui se cache pas.
Parce que lui, mentalement, il lâche pas, lui.
Ouais. Bon, Fred, je crois qu'on va pouvoir te libérer le jeudi soir. Hein. T'as plus de club espagnol.
Alors, j'en ai plus. Ce qui est quand même. C'est-à-dire, le bilan espagnol, on avait 8 clubs hein, engagés. Puisqu'il y en avait 5 en Ligue des Champions.
Il en reste 3 quand même.
Il m'en reste 3.
Il en reste 3 dans la principale Coupe d'Europe.
De la principale.
Non, mais c'est peut-être intéressant, justement, sur le déclin de la, on va dire, de la deuxième division, entre guillemets, européenne en Espagne.
Bien sûr. Non, mais moi, je répète tout le temps. Pour moi,
on va
peut-être
se calmer et ne pas considérer qu'une année fait foi. Et peut-être attendre quand même un petit peu, puisque jusqu'à l'année dernière, ça se passait bien.
L'an dernier, il y a eu l'exploit incroyable de Séville.
On a le droit d'une année d'être un petit peu en dessous, parce que si tu vas par là, il va pas y avoir énormément de pays à mettre en avant, tu vois.
Non, mais
l'Italie l'année dernière, alors qu'ils sont leaders en plus au point Coupe d'Europe là, et cette année ils ont perdu tout le monde en Ligue des Champions.
Ils ont encore 4 clubs mine de rien.
Oui, mais
3 en Europa League,
dans l'inférieur.
Et 1
à l'étage supérieur, ils ont plus personne. Alors que l'année dernière, ils en avaient 3 jusqu'en quart. Bon, voilà. Avant de dire on est en train de couler ou ceci ou cela, ce serait bien de le voir sur 2 ans, minimum 2 ans.
Merci Fredo.
Voilà, simplement pour dire qu'en fait ce qui maquille un petit peu le résultat, c'est, et ce qui fait du bien, c'est la surprise Atlético. Parce que si on avait eu que Real et Barça, ça faisait un peu, en gros, il n'y a que 2 clubs en Espagne, c'était le truc contre lequel on lutte depuis tellement longtemps. Mais là, le fait que l'exploit de l'Atlético contre l'Inter a redore un petit peu le blason de cette saison qui n'est pas évidente.
Merci Fred, bonne soirée.
Adios, chicos.
Alors, autre montada, celle du Bayer Leverkusen. Ah, c'était le match de la soirée.
C'était le match de la soirée.
Bayer Leverkusen-Karabag. Polo Breitner est avec nous. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Bon, tu les voyais dehors comme nous, j'imagine, non? À 2-0.
Oui. Bah, je me disais, ça allait sauter au bout d'un moment. Surtout que, au-delà de la prestation, ce qui est très bizarre, c'est que si tu veux, le premier quart d'heure est dominé largement par les Leverkusen et on se dit bon bah ils vont régler la mire et ça va finir à 3-0. Et puis on arrive à 0-0 à la mi-temps et puis tu vois que Karabakh te fait la même chose qu'au match aller, c'est-à-dire ça joue très vertical en contre. Ils ont des coureurs de 100 mètres et ils se retrouvent à mener 2-0. Karabakh se retrouve à 10. Xabi Alonso fait les changements à l'heure de jeu en faisant rentrer Grimaldo et Patrick Schick. Et une fois de plus cette saison, aussi bien en Bundesliga que lors du match aller, ils vont chercher leur qualification ou les 3 points durant les arrêts de jeu. C'est-à-dire qu'ils sont menés encore, même s'ils sont à 10 contre 11, ils sont menés encore 2-1 à la 90e minute. Et ils marquent à la 91e et 96e, si je me rappelle bien, par Patrick Schick. Donc c'est un peu fou. Ce qui est très intéressant, c'est ce que dit Xabi Alonso après la rencontre. Parce que lui, il est dans une logique toujours de contrôler une rencontre. Or, on se rend compte, on avait parlé un petit peu la semaine dernière, que le Leverkusen version 2024, il est quand même pas tout à fait celui de 2023. Et de plus en plus, Leverkusen perd le contrôle des rencontres et a du mal à revenir. Alors, ils ne veulent pas perdre, ça paraît clair. Mais quand même, ils sont passés à côté de la correctionnelle lors du match aller. Là, ce soir, c'est un vrai petit miracle, même s'il y a un nombre d'occasions extraordinaires avec quand ils se retrouvent avec un joueur en plus. Mais voilà, ça, je pense que le fin de saison à Leverkusen risque quand même d'être un petit.
Et Polo, il y a un point positif, c'est comme ce club se traîne un débit mental, de les voir faire 2 fois ça en championnat, ça leur arrive de jouer après le Bayern et donc en gros d'être un peu toujours avec cette pression d'obligation de gagner et qu'ils le font à chaque fois. Bon, bah mentalement ils sont à la hauteur, je trouve, hein, au-delà de toutes les qualités techniques, tactiques qu'ils affichent. Mais on sait que quand arrive le money time, c'est aussi le mental qui fait la diff. Pour c'est l'instant, clair. Ils sont au top là-dedans.
Ben oui, mais combien de temps ça va tenir? C'est ça pour moi la question, parce que honnêtement, s'ils gagnent le championnat, ils le méritent largement. C'est grâce aussi au point qu'ils sont allés chercher la victoire dans les arrêts de jeu contre Leipzig. S'ils se qualifient pour les quarts de finale, ils sont menés 2-0 par Karabakh, qui est pas un monstre européen, mais qui a fait une très très belle performance aussi bien au match aller qu'au match retour, qui savait faire qu'une seule chose, mais il le faisait très bien. ils vont les chercher, donc ils lâchent pas cette compétition telle que je le pensais, mais quand même, il y a une petite polémique en Allemagne, parce qu'on y fait beaucoup de turnover, Xabi Alonso, notamment en Europa League, pour motiver toute la troupe, mais peut-être que ça a ses limites aussi quand tu commences à arriver en huitième ou en quart, quoi, dans les matchs à élimination directe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne lâchent rien, mais ils ont une tendance, ça doit être, je dis pas de bêtises, non, il y a sur les quatre derniers matchs, ils ont réussi à faire expulser trois fois l'équipe adverse. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils gagnent. C'est quand même assez impressionnant, c'est-à-dire qu'ils font tourner le ballon dans tous les sens. Alors ça va pas en ce moment le devant le but, la dernière action, la dernière passe, c'est pas ça, mais finalement, ils y arrivent à la fin. Je sais pas comment ça va se finir, parce qu'il faudrait pas qu'ils craquent ce week-end, par exemple. Mais en tout cas, ils ont marqué de toute façon l'histoire du football allemand 2023-2024. Et pour moi, c'est clairement l'équipe de la saison, au moins en Allemagne, quoi.
Merci Polo pour ce résumé. Bon, Fribourg qui avait sorti Lens s'est fait sortir hein, par ailleurs. Ils ont pris une belle branlée à West Ham ce soir 5-0. Merci Polo, bonne soirée. Dans un instant, Yoann Crochet avec nous. Il reste de l'actu du jour. On va parler notamment de l'équipe de France d'ici minuit. Restez bien à l'écoute de l'After. N'oubliez pas les podcasts hein, de l'After et les podcasts club également qui sont toujours disponibles toutes les semaines. Paris, Marseille, Lyon. Bref, on est là. Vous savez qu'on a un nouveau podcast oui, le Standard de Max.
Ah oui?
Ah, c'est génial.
C'est quoi?
Et Max, il vient à minuit et on enregistre un petit podcast en plus où il nous raconte la tendance du Standard, qui parfois n'est pas du tout celle de l'émission. Par exemple, hier soir, il a raconté qu'hier soir.
Il était temps que Max ait son podcast.
On va faire de l'Unstar. Hier soir, il a raconté qu'il a eu énormément de supporters niçois, par exemple.
Et hier soir?
Ouais, il venait râler. Les niçois, après le match face au PSG. Mmh. Parisien, bon, j'ai enregistré la qualif.
Tu me fais une petite ouverture en profondeur, pas prévue. On est jeudi, le week-end, et après, il va y avoir la trêve, là. Mm-hmm. Peut-être rendez-vous mardi pour parler de Nice. Pas mal de choses à dire. Rien ne va plus.
Ben, très bien.
Rien ne va plus. Tendance à envisager une fin de saison très compliquée. Uh-huh. On va en parler. Pas mal de choses à dire sur le sujet.
Parfait. Mm. Et le Standard de Max peut parfois être aussi le Standard d'Adrien, hein, qui est... le pendant de Max, quand Max n'est pas là. Allez, à tout de suite dans l'After.